Masechet Baba Metzia, résumé du Daf Mem Tet. La Gemara raconte que Rav Kahana vendait du lin et on lui a payé déjà, les acheteurs ont payé le lin. Puis ensuite, le prix a monté, le prix du lin a monté. Et puisqu'on ne lui avait pas payé toute la marchandise, il est allé demander chez Rav quoi faire. Rav lui a dit, regarde, le prix qu'on t'a payé, tu dois donner, sinon tu as mis chez Para, celui qui a reçu l'argent et qui annule la vente, quand l'acheteur n'a pas encore pris la marchandise, même si on ne peut pas l'empêcher, mais il a une punition, il a un Mishépara. Mishépara, ça veut dire celui qui a puni les Réchaïm, du Maboul, de Rapalaga, etc., il va le punir à lui aussi. Donc ce que tu as reçu comme argent, tu dois donner. Mais pour le reste, il n'y a pas de problème. Ce n'est qu'un accord, ce ne sont que des paroles. Tu peux ne pas tenir ta parole et dire, voilà, le reste de la marchandise, je ne donne pas. Ce que j'étais payé, je donne, je vends. Ce que j'ai pas été payé, je ne vends pas. Et la Gemara dit qu'en fait, ça c'est une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Est-ce que quelqu'un qui ne tient pas vraiment sa parole, qui dit voilà, je vais faire, finalement il fait pas. Selon Rav, c'est un manque de confiance. Selon Rabbi Yochanan, il n'y a pas de problème. Pardon, au contraire. Selon Rav, il n'y a pas ici un problème de manque de confiance. Selon Rabbi Yochanan, il y a eu un problème de manque de confiance ici. La Gemara objecte. On voit, on apprend des psukim, que la Torah dit Hin tzedek. Hin, c'est en fait une mesure de liquide, de boisson. On apprend de là hen tzedek. C'est un mot de trop dans la Torah qui vient d'apprendre hen. Hen, il veut dire oui. Il faut que ton oui soit juste, que ton non soit juste, que tu tiennes ta parole. Et répond la Gemara, non. Ça veut dire ne promets pas quelque chose quand tu sais a priori que tu ne vas pas tenir ta parole. Mais si tu penses tenir ta parole, tu peux dire et après tu dis non, ça ne me convient pas, je ne fais pas finalement. La Gemara ramène encore une objection. On voit selon Rabbi Shimon, Il y a eu un problème de manque de confiance, ne pas tenir sa parole. Répond la Gemara, c'est vrai, Rabbi Shimon y pense comme ça, mais c'est en fait une marloquette Tanaïm. Et la Gemara retrouve ici un Tana, qui est Rabbi Yochanan ben Matia, qui aurait permis de ne pas vraiment tenir ses engagements, qui n'ont été que faits par des paroles. La Gemara repousse cette preuve de Rabbi Yochanan ben Matia en disant là-bas, c'est différent, mais quand quelqu'un s'est réellement engagé, il n'aurait peut-être pas le droit, hein, de ne pas tenir ses engagements, enfin, pas qu'il n'a pas le droit, mais ce sera un problème de confiance. Donc, Gemara repousse cette preuve-là. La Gemara continue à dire, selon Rabbi Yochanan qui dit que c'est un manque de confiance ne pas tenir ses mots, il faudrait distinguer entre un grand cadeau et un petit cadeau. S'il promet un grand cadeau, il aura le droit, finalement, de ne pas lui donner. Non seulement il aura le droit, mais on ne va pas lui en vouloir non plus. Ce n'est pas un manque de confiance, parce que même celui à qui il avait promis, il n'a pas fait entièrement confiance à sa promesse. Mais quand c'est un petit cadeau, alors de toute façon, bon, et l'autre il comprend que ce n'était pas un vrai engagement, ce n'était pas obligatoire, il ne s'appuie pas vraiment sur ça, il ne fait pas entièrement confiance, alors il n'y a pas de problème finalement. Pardon, je reprends. Si c'est une petite promesse, l'autre il fait confiance. Si c'est une grande promesse, l'autre ne fait pas entièrement confiance. Donc dans une grande promesse, celui qui voulait donner n'a pas l'obligation de tenir sa parole. Si c'était une petite promesse, il doit tenir sa parole, sinon ça, il s'appelle Mechoussar Amana, c'est un manque de confiance. Et donc la Gemara ramène une preuve pour cette distinction là entre petit cadeau, grand cadeau. Petit cadeau, il faut donner. Tu as dit que tu donnes, tu devrais donner. La Gemara ensuite raconte une histoire qui finalement elle est corrigée et d'après la correction, l'histoire a été racontée de manière plus précise. La vraie version de l'histoire est de dire comme ça. C'était un raham, est venu quelqu'un chez lui vendredi après-midi très proche de Shabbat pour lui demander de lui vendre des sésames. Et ce raham-là lui a dit je n'en ai pas, j'ai pas de sésame. Et donc il lui dit si tu n'as pas de sésame, au moins garde-moi mon argent jusqu'après Shabbat, parce que là, il va faire nuit, là, déjà, je ne peux pas garder mon argent comme ça. Alors, il lui dit, voici ma maison devant toi. Et l'autre, il a posé son argent, et ça a été volé pendant Shabbat, ça a été volé. Et là-dessus, Rava a dit, il n'est pas considéré comme un gardien du tout. Il n'a strictement aucun engagement vis-à-vis de lui. Il n'est pas considéré comme un gardien payé, ni même gratuit. Quand il lui a dit « Voici ma maison devant toi », ça ne veut pas dire que je te garde quoi que ce soit, même s'il ne s'est pas fatigué du tout, il y a une négligence ou quoi, il n'a strictement aucune responsabilité sur son argent. On a vu encore dans la Mishnah, selon Rabbi Shimon, le vendeur, seul le vendeur, quand il a été payé, a le droit d'annuler la vente. Alors que tant que l'acheteur n'a pas pris la marchandise. Mais l'acheteur lui-même, une fois qu'il a payé, il ne peut plus annuler. La Guemara dit cependant, dans un cas où le vendeur avait loué une salle, une chambre de l'acheteur, et il a posé là-bas la marchandise, et que l'acheteur lui a payé la marchandise, là, c'est fini, il ne peut plus annuler la vente, ni le vendeur, ni l'acheteur. Pourquoi? Puisque l'acheteur a payé, alors, dans ce cas-là exceptionnel, que la marchandise, elle se trouve dans un endroit où l'acheteur a accès, et qui peut surveiller sa marchandise, donc dès qu'il a payé, ça devient définitif, il ne peut plus changer d'avis. La Guemara termine par une histoire où quelqu'un voulait acheter du vin, il avait payé le vin, puis il a vu que le roi allait prendre, le vice-roi allait prendre ce vin-là. Donc l'acheteur a dit au vendeur, finalement, je veux pas ce vin, rends-moi mon argent. Et la Guemara dit effectivement, de même que le vendeur a le droit de changer d'avis, l'acheteur aussi peut changer d'avis, malgré qu'il a payé, il peut changer d'avis et annuler la vente. Mishnah suivante, et là on va rentrer dans la halakhot de Hona'a. Hona'a qui veut dire, dans une vente, on n'a pas le droit de tromper son ami. Ni le vendeur ne peut tromper l'acheteur, il ne peut pas vendre pour trop cher, ni l'acheteur n'a le droit de tromper le vendeur, à acheter pour moitié prix, pour un prix trop bas. La limite que les Chachamim ont fixée, c'est un sixième. Quand il y a une tromperie, il y a une hona'a d'un sixième, il lui rend la hona'a, il lui rend le sixième. La différence. Plus qu'un sixième, la vente s'annule, moins qu'un sixième, c'est une mechila. Combien de temps il peut encore venir réclamer? Le temps, on donne à l'acheteur que le temps de retrouver, de rencontrer ses proches, ses amis ou un marchand pour se prendre conseil et venir annuler la vente, venir exiger son saona. Mais si ce temps-là est passé, ça devient une mechila, c'est fini, il a perdu. Selon Rabbi Tarfon, la ona n'est pas limitée à un sixième, ça va jusqu'à un tiers. Un tiers, c'est considéré comme une ona et la vente ne s'annule que si la différence était de plus qu'un tiers. Cependant, selon Rabbi Tarfon, on lui laissera toute la journée à l'acheteur, ou à celui qui est, en fait, à l'acheteur, oui, à l'acheteur, de revenir chez le vendeur en lui disant, tu m'as trompé, je réclame ma hona'a. La Gemara ramène une grande discussion entre Rav et Shmuel, comment calculer ce sixième-là? Selon Rav, le sixième, on ne calcule que selon le vrai prix de la marchandise. Si la marchandise, elle vaut 6, et qu'elle était vendue pour 7 ou pour 5, c'est une hona'a. Pour 7, l'acheteur a été trompé. Pour 5, le vendeur a été trompé. Ça, c'est une onara. Mais si maintenant, la marchandise ne vaut pas 6, c'est lui qui a payé 6. Au lieu de payer 5, il a payé 6. Au lieu de payer 7, il a payé 6. Même si maintenant, la pièce de différence par rapport à ce qu'il a payé, c'est un sixième, selon Rav, puisque par rapport à la marchandise, ce n'est pas un sixième, alors on ne dira pas que c'est une onara. On dira donc finalement, d'après Rav, on dira comme ça. S'il a payé 6 au lieu de 7, la différence, c'est moins qu'un sixième. Et donc, c'est une mechila. S'il a payé 6 au lieu de 5, la différence est plus qu'un sixième, donc la vente s'annule. Ça, c'est pour Rav. Shmuel, il dit non. Du moment qu'il y a un sixième, peu importe si tu regardes maintenant le vrai prix de la marchandise, tu diras non, mais il était trompé d'un sixième. Ça valait 6 et c'était vendu pour 7 ou pour 5. Que dans le cas où aussi, finalement, le sixième, tu ne trouves que par rapport à l'argent qu'il a payé. Il a payé 6 au lieu de 7 ou de 5. Dans ces deux cas-là, on dira, c'est une ona'a. Et c'est considéré comme un sixième d'après Shmuel. La Gemara explique notre Mishnah selon Rav et selon Shmuel. Quand on a parlé d'un sixième, la Mishnah veut donner un exemple. 4 sur 24, c'est un sixième. Et comment tu les rends ces 4 sur 24? La Gemara, elle explique, elle interprète la Mishnah, elle résout la Mishnah aussi bien selon Rav que selon Shmuel. Mais finalement, elle ramène une preuve d'une braïta. Il dira clairement comme Shmuel, comme quoi hein, le sixième peut se calculer aussi bien par rapport au vrai prix que par rapport à ce qu'il a payé. Dans tous les cas, c'est considéré comme une ona, c'est considéré comme un sixième. Donc aussi bien si ça valait 6 et qu'il a payé 5 ou 7, c'est une ona, que dans le cas où il a payé 6 et que ça valait 5 ou 7, dans ces deux cas-là, ce sera considéré comme une ona d'un sixième, d'après cette braïta qui, en fait, pense comme ce que Shmuel a dit.